époque, surgit un homme tout puissant.
T'as une drôle de façon de parler, d'où tu viens?
Plein d'endroits différents. Un guerrier d'une force incroyable. Tu as le diable en toi.
Pendant plus de 20 ans, on a été comme frère.
Conrad MacLeod était mon parent, c'est vrai. Un homme incertain de son avenir.
Alors tout ça veut dire, Brenda, que tu es en face d'un homme qui vit depuis au moins le 18e siècle.
Ça n'est pas possible.
Tu ne peux pas mourir, MacLeod.
Je suis Conrad MacLeod du clan des MacLeod. Je suis venu au monde en 1518 dans le village de Glenfinnan sur les rives de l'Orgie. Et je suis immortel.
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, vieille comme le monde, cette idée d'immortalité, comment est-elle devenue une quête sans fin? On ouvre la discussion aujourd'hui avec deux invités d'horizons très différents et ça va être passionnant. L'un est réalisateur, l'autre biologiste. Avec nous aujourd'hui, Roland Portige, réalisateur de documentaires et co-auteur avec François de Closet des grandes énigmes de la science pour France 2. Auteur aujourd'hui de Les enfants de Mathusalem, l'incroyable histoire de l'allongement de la vie chez Stock, où il revient sur cette histoire sans fin, celle de l'homme cherchant à prolonger une vie toujours trop courte. Bonjour Roland Portige.
Bonjour.
Vous avez reconnu l'extrait d'ouverture de l'émission
Highlander.
Ah, avec
celui que tout le monde connaît.
Christophe Lambert.
Évidemment.
Par exemple. Un film américain dont l'histoire, justement, est celle d'un homme immortel qui va traverser les époques à travers une quête qu'il partagera avec d'autres semblables, d'autres hommes comme lui, immortels, et qui nous fait réfléchir aussi au sens d'une vie sans fin. À nos côtés, le biologiste généticien Miroslav Radman, chercheur à Harvard, membre de l'Académie des sciences et Grand Prix INSERM, qui publie aujourd'hui le Code de l'immortalité, la découverte qui pourrait prolonger nos vies chez Human Science. Il nous en dit plus sur la clé qui permettra peut-être de ralentir le vieillissement de nos cellules. Et après, c'est la question qu'on va vous poser. Miroslav Radman, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que maintenant que vous avez trouvé la clé, vous avez réussi à rallonger votre propre vie pour commencer?
Ah non, on a une idée de la clé. L'utilisation de la clé, ça va prendre un peu de temps.
Mais il faut trouver la serrure encore, c'est ça?
Je crois qu'on a trouvé la serrure aussi.
Bon.
Mais il faut travailler sur l'adaptation clé-serrure.
Oui. Un mot de votre parcours, parce que vous êtes un chercheur assez atypique. Vous êtes né à Split et vous avez commencé à vous intéresser quand à la biologie et à toutes ces molécules?
Quand j'étais assez jeune, j'ai plongé beaucoup. Mon père était un pêcheur, donc j'étais sur la mer tout le temps. C'était donc pour la biologie marine. Je me suis imaginé sur le bateau d'exploration des océans, etc. Et puis, dès le début de mes études, c'était l'année du prix Nobel à Watson et Crick pour l'ADN, la beauté des molécules, au moins ce que j'ai pu imaginer, donc m'a dévié de cette belle beau destin et m'a envoyé dans le laboratoire, parmi les rats du laboratoire, au lieu de me trouver au soleil sur la mer.
Mais c'est un autre voyage, mais c'est oui. Quand même un beau voyage que celui de l'exploration du corps humain.
Tout à fait. Si ce n'était pas ça, je serais revenu sur l'ancienne... ambition.
Sur le bateau de pêcheur.
Voilà. La passion est toujours là, d'ailleurs.
La biologie, comme la magie, ont pris la place des religions qui n'ont pas su promettre plus que le salut de l'âme, Roland Portige. De ce que vous avez découvert, de ce que vous avez cherché dans cette longue histoire qui nous ramène presque au temps premier, est-ce que c'est ce qui s'est passé? Parce que la religion n'avait pas de réponse à apporter à ce qu'il y avait après, si ce n'est le salut de l'âme, les hommes ont cherché d'autres croyances pour essayer de trouver ce sentiment d'être éternel.
Alors au départ, pour moi, il y a une obsession. Et cette obsession, c'est une obsession humaine. C'est celle de... vous savez, c'est le prix que nous devons payer à notre cerveau qui est si sophistiqué, qui peut anticiper sa propre mort. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre depuis que l'homme existe. Depuis que les premiers hommes ont enterré leur mort. Et ils ont eu l'idée que cette vie était tellement courte... qu'il fallait forcément que ça continue ailleurs. Et ils ont eu d'abord l'idée que, bah, effectivement, elle pouvait continuer dans l'au-delà. Ça a commencé à la préhistoire. Et puis, c'est vrai que toutes les religions, d'une certaine manière, ont été les premières militantes de l'allongement de la vie. Simplement, le problème, c'est que dans un premier temps, on pensait à l'immortalité de l'âme, de l'esprit, et on trouvait que c'était un petit peu insuffisant. Le seul qui a eu cette idée que le corps pouvait aussi être immortel, bah, c'était le christianisme primitif, le tout premier christianisme qui propose la résurrection des chairs. Malheureusement, c'est une idée formidablement révolutionnaire qui n'a pas eu le succès qu'elle aurait pu avoir avec cette idée que Paul avait du corps glorieux qui était à la fois un esprit et un corps et qui aurait pu permettre de vivre cette résurrection des chairs. Malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, on a commencé à chercher ailleurs. Et ailleurs, bah, c'était dans le réel tel qu'il est, c'est-à-dire dans la biologie tel qu'on l'imaginait.
Alors, qui était Mathusalem? Quel était son rêve?
Ah, Mathusalem, vous savez, c'est un personnage extrêmement secondaire de la Bible. Sa seule caractéristique, c'est un des patriarches, évidemment, mais sa seule caractéristique, c'est d'avoir vécu jusqu'à 969 ans. Et d'ailleurs, Mark Twain disait qu'il faisait si jeune qu'à 969 ans, il en paraissait que 375. Mais sa seule caractéristique, c'est ça. Et dans la Bible, ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que, si vous voulez, le vieillissement va avec le déluge, c'est-à-dire que c'est une sorte de dédivination de l'homme. C'est-à-dire que effectivement, l'homme est parti, est sorti du paradis, et il est affecté de cette maladie qu'on appelle le vieillissement. Et Mathusalem est allé très loin. Mais à partir de là, tout va dégringoler.
Êtes-vous, vous, Miroslav Radman, un enfant de Mathusalem, pour reprendre le titre du livre de Roland Portiche, vous, en tant qu'homme, mais aussi en tant que biologiste généticien, est-ce que vous êtes l'un de ces candidats, l'un de ces rêveurs d'immortalité, candidat à la prolongation de la vie?
J'aimerais beaucoup que ça soit ainsi, mais je suis conscient que la seule façon de ne pas mourir, d'être immortel, parce qu'on ne meurt pas, de ne pas mourir, c'est de ne pas naître. C'est la seule façon.
Au moins, c'est simple.
Voilà, au moins,
là,
c'est simple.
Là, on a trouvé le remède.
Et on est un peu guéri de cette souffrance dont mon voisin, M. Portiche, parle. Et c'est toujours beau à lire, à raconter. Mais quand on regarde l'évolution, On est guéri de cette sophistication poético-philosophique parce que moi je suis content que j'ai vécu jusqu'à l'âge dont je vis maintenant parce que je sais que l'ancêtre commun des grands singes, gorilles, orang-outans et chimpanzés, a vécu probablement à peu près le temps que les gorilles vivent. Ça veut dire la ménopause est la fin de la vie. Donc on sert seulement à la reproduction biologique. Après, on est en train de manger la nourriture de ses enfants et petits-enfants et c'est pas bon. Or, ce qui s'est passé à partir de notre ancêtre commun, où la ménopause et la fin de la vie coïncidaient, c'est une mutation, un changement dont nous sommes les descendants, où par un changement ou par beaucoup de petits changements, on se trouve aujourd'hui avec la ménopause au milieu de la vie. Et il n'y a que trois espèces, orques, une sorte de dauphin strié, et nous, qui avons la ménopause, qui vivons tellement plus longtemps que nécessaire pour la biologie. Et c'est cette prolongation post-ménopausale de la vie qui a donné, je crois, l'évolution de la culture. Et les maladies telles qu'Alzheimer et Parkinson, etc. Donc, quand je vois ça, je me dis, oh, chouette que j'ai vécu 74 ans. Et on est guéri un peu de cette poésie et philosophie qui implicitement prend l'homme comme le début de quelque chose. Et il faut que ça va mieux. comme biologiste, je connais trop, et on devait le connaître dans la société aussi, que si on n'est pas content avec la réalité ici et maintenant, changer le changement, ça ne suffit pas, parce que toujours ça peut changer en pire. On oublie ça.
Oui, mais on espère que ça peut changer en mieux.
Voilà, oui, voilà.
C'est ça aussi.
Mais ça peut changer en pire. Donc, on profite déjà avec les orques et ces dauphins. On profite déjà d'une prolongation, d'un dédoublement d'espérance de vie par rapport à notre ancêtre, à nos cousins gorilles et chimpanzés.
Mais tout le monde n'est pas aussi rationnel que vous, Miroslav Radman.
Hein, et je suis pas rationnel.
Et ce type de croyance quand même perdure, c'est ce que vous nous racontez ou raconte votre voisin Roland Portiche. Des fontaines de jouvence aux élixirs d'immortalité, ces croyances, cette quête à la dent dure et la vie longue aussi de son côté. C'est vrai qu'il y a une équipe, on a appris, de chercheurs qui ont découvert un mystérieux liquide dans une tombe en Chine récemment. Un élixir d'immortalité dans une vieille urne en bronze qui daterait de plusieurs milliers d'années. Ça veut dire qu'on continue aussi à croire à ce qui semble être des croyances ancestrales mais qui perdurent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire avec vous, Roland Portiche, une sorte de cartographie de la vie longue, une sorte de Guinness Book des records de longévité? Est-ce qu'il existe des lieux où la vie est plus douce, des vallées de longue vie où les hommes vivraient plus longtemps?
Ce Guinness Book a été fait, en effet, quand on a passé les fausses informations. Hein, il y a eu effectivement une vallée qui s'appelait la vallée de Vilcabamba, où on croyait que les gens vivaient beaucoup plus longtemps qu'ailleurs. Et en vérité, le problème, il tenait à des registres d'état civil mal tenus. Mais en fait, aujourd'hui, la plupart des chercheurs, des sociologues, des démographes, des gérontologues, estiment qu'il y a cinq endroits dans le monde qu'on appelle les zones bleues, où effectivement les gens vivraient un peu plus longtemps qu'ailleurs. Alors ça tiendrait à la fois à leur capital génétique et aussi à des éléments de mode de vie. Alors ces cinq endroits qui sont très connus, c'est l'île d'Okinawa au Japon, c'est la Sardaigne, mais plutôt le nord de la Sardaigne que j'ai visité, avec ses super centenaires, parce que la Sardaigne contient des super centenaires. Et puis il y a aussi...
Un petit bout de France.
Pardon ?
Il y a aussi un petit bout de France.
Peut-être, oui, mais c'est
non,
possible.
Vous ne l'avez pas trouvé ?
Non, ça,
en
j'ai
France,
pas trouvé.
Mince.
J'ai pas trouvé.
D'accord.
Il y a Jeanne Calment, bien sûr, qui est une exception que j'ai rencontrée. D'ailleurs, j'ai peut-être été un des derniers journalistes à l'avoir interviewée. Cela étant, c'est vrai que ça fait réfléchir, parce que qui a envie de vivre comme ça ? Et puis, il y a trois autres régions, comme l'Icaria. En Grèce, Loma Linda, qui est une région pas très loin de Los Angeles, et puis le Costa Rica. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de, évidemment, il y a des éléments génétiques là-dedans qui sont communs à tous ces gens qui dépassent largement les 100 ans. Et puis, il y a aussi des éléments de mode de vie. J'en retiens deux qui sont extrêmement intéressants. Le premier, c'est cette idée que ils appellent ça le plan de David. Et au Japon, on appelle ça l'ikigai. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il faut se lever le matin en ayant le sentiment qu'on a quelque chose à faire. Voilà. Et sans ça, la vie est bon. Et puis, évidemment, le deuxième élément, c'est le fait de manger très peu, quoi. De manger très peu. Au moins on mange, au plus on vit longtemps. C'est malheureusement le cas. Et un biologiste qui s'appelait Roy Walford, vous connaissez sans doute, on a fait même l'élément d'une diététique de la longévité, avec ce qu'il a appelé, lui, la restriction calorique. L'idée de manger carrément 1000 à 1200 euros, 1200 calories par jour, et qui, selon lui, est donner un signal à l'organisme. Et c'est très intéressant, parce que ça rejoint un petit peu les travaux de Monsieur Radman, c'est que le fait de manger très peu envoie un signal à l'organisme, et ce signal, c'est que l'organisme doit rentrer en maintenance. Plutôt que de se développer, il doit rentrer en maintenance, c'est-à-dire faire en sorte de réparer son ADN et de réparer tout ce qui est fragile dans la biologie humaine. Et simplement, le problème, c'est que la méthode est invivable telle qu'elle est pratiquée par Roy Walford, et depuis peu de temps, un chercheur australien qui s'appelle David Sinclair a imaginé une molécule qui pourrait simuler cet état de restriction calorique.
Miroslav Reitman, oui. Est-ce que la mort est programmée dans nos gènes? Est-ce que la différence entre Jeanne Calment ou Winston Churchill, la différence que vous avez travaillée, tient à une différence génétique?
Pour le moment, la mort est, on peut dire, de façon préprogrammée, disons pour nous, pour vivre au maximum 120 ans. Mais il y a des différences interindividuelles énormes. Donc il y a des super centenaires, tels qu'elle était Jeanne Calment, qui à 90 ans ne prennent aucun médicament, qui sont vieux, ils ne sont pas jeunes, ils ne sautent pas, mais ils n'ont pas des maladies. Et donc, ce qui est intéressant, et donc dont je me suis occupé les derniers 4-5 ans, quelle est la base biologique, chimique de nos maillons faibles, où quand ça va casser là. Ce sont les prédispositions aux maladies particulières, prédispositions aux maladies à 70 ans, ou peut-être déjà à 30 ans. Et je crois qu'on a trouvé la base. On a trouvé, et donc je suis vraiment content, c'est un bon sentiment, et même si c'est l'illusion, s'il s'avère que c'est l'illusion, qu'on a appris la chimie du vieillissement, que c'est la rouille des protéines, les molécules qui font tout dans la vie, absolument tout, et que maillon faible qui prédispose, qui dans un sens à la naissance déjà, nous avons notre destin préprogrammé dans un sens, sauf si on se fait écraser par un camion, qu'on va mourir d'une maladie particulière. Et donc, il s'agit de ce qu'on appelle le polymorphisme, ça veut dire de petits changements qu'on appelle les mutations silencieuses, qui ne font rien pendant qu'on a 15 ou 20 ou 30 ans, mais qui prédisposent la protéine à l'oxydation, le rend plus sensible, cette protéine, chez moi que chez vous. Et ça veut dire qu'à 50 ans, cette protéine sera plus endommagée chez moi que chez vous. Et dans 20 ans ou 30 ans, je serai malade et vous non. Peut-être vous serez malade d'une autre faiblesse. Donc, il s'agit d'une combinaison métabolisme oxydatif, ça veut dire la source d'énergie pour la vie. On brûle essentiellement les sucres à l'aide de l'oxygène, et le prix à payer qu'il y a cette radicaux libre d'oxygène qui rouille tout, qui rouille la voiture et rouille mes protéines aussi, hélas. Mais il est possible donc de les mesurer, de trouver que c'est réversible, qu'on peut rajeunir. On a rajeuni en 10 jours les souris d'une façon spectaculaire. Nous, on rajeunit les cellules. Il y a une sorte ça s'appelle parabiose. Et les Français peuvent être fiers que Paul Bert, en 1860, a dû refaire cette manip avec les deux souris à l'Académie des sciences, parce qu'on ne lui croyait pas. Donc il a chirurgicalement connecté la circulation sanguine des deux différentes souris, et il a vu des changements. Aujourd'hui, on peut le faire d'une façon beaucoup plus propre, avec souris génétiquement identiques, il n'y a pas de problème d'immunité, prendre une vieille souris, une jeune souris, connecter la circulation sanguine, et dans une semaine à 10 jours, la vieille souris a, sur tous les critères que vous pouvez mesurer, inclut la capacité mentale de la souris, l'ostéoporose, tout ce que vous voulez, elle a rajeuni. Donc rajeunissement, ce n'est pas une hypothèse. C'est un fait.
Mais en fait, ces bactéries et ces protéines réparatrices, quel rôle elles vont pouvoir avoir à l'avenir? Est-ce qu'elles peuvent, on peut imaginer qu'elles feront partie de ce code de l'immortalité?
Avant de tomber malade, aller à l'hôpital ou chez le médecin, il faut qu'un système des compensations, suppressions des maladies cellulaires, des défauts cellulaires lâchent. Et ça, c'est parce que il y a une parabiose cellulaire. Ça, c'est le titre de mon article d'avant-hier. Les cellules ont tellement de canaux de communication qu'il y a un trafic moléculaire entre les cellules. Et la cellule malade, touchée au niveau de ses gènes, par exemple, il n'y aura pas de conséquences fonctionnelles parce que les voisines leur filent la molécule manquante. Et pendant qu'il y a cette solidarité cellulaire, tout marche bien. C'est pour ça que la baleine, qui a beaucoup, beaucoup de cellules, vit 210 ans. Elle devait attraper beaucoup plus de cancers que la souris. C'est le contraire. Elle vit 100 fois plus longtemps, contre toute raison. Ça s'appelle le paradoxe de Richard Pito. Et on comprend ça par cette solidarité, une sorte de socialisme cellulaire où on se partage tout. Et la seule chose, c'est qu'on dure plus longtemps, mais on signe l'arrêt des morts parce qu'un jour, tout le monde a besoin d'aide et personne ne peut le fournir. Et c'est la fin, c'est le collapse des parabioses.
Roland Partiche.
Oui, sans entrer dans le détail technique, moi qui regardais les choses d'un peu loin, j'ai découvert une chose que je ne savais pas et que je trouve presque scandaleuse par rapport au rôle de l'évolution. On a le sentiment que l'évolution, ou le bon Dieu, si on préfère le bon Dieu, n'a pas sélectionné le vieillissement. Il a sélectionné la reproduction, mais pas le vieillissement. On sait aujourd'hui que pratiquement, tout se passe en vérité, comme si l'évolution mettait le paquet dans les premiers temps de la vie pour que tout se passe le mieux possible, et après, elle passait devant nous comme une belle indifférente. Elle nous laissait à notre... Vous savez, il y a une chose, puisque vous me parliez d'oxydation, que j'avais découverte un jour, parce qu'on avait fait un reportage avec François de Cloget, c'est chez des drosophiles qui est enfermé dans une cage de verre, et on mettait une solution d'oxygéné. Et ces drosophiles, évidemment, étaient totalement oxydés, et elles mouraient. Oui. Mais une partie. Alors, ce qu'ont fait les généticiens, c'est qu'ils ont activé un gène qui existait chez ces drosophiles et qui a fait qu'elles résistaient parfaitement à l'oxydation. Et le généticien m'a dit, mais ce gène existe aussi chez l'être humain. Le vrai problème, c'est de comprendre pourquoi il n'est pas activé. Pourquoi l'évolution nous donne les moyens de résister au vieillissement, mais ne les utilise pas.
Et vous revenez, Roland Portier, juste un mot quand même dans votre livre, dans Les enfants de Mathusalem, sur toutes ces recettes ancestrales imaginées, pensées pour lutter contre le vieillissement. Alors ça va des transfusions aux élixirs, aux greffes, aux hormones sexuelles, à tout ce qui aurait pu et potentiellement booster un peu aussi notre organisme et nous permettre d'imaginer allonger notre vie. Alors il y a les pouvoirs de la médecine, il y a aussi des recettes de charlatans qui n'ont eu d'efficacité qu'au près de ceux qui voulaient bien y croire. Aujourd'hui, on voit que la biologie renouvelle quand même sérieusement la proposition. Quelle est la promesse pour vous, Roland Portiche, aujourd'hui? À quelle fin? Qu'est-ce qu'on cherche?
C'est-à-dire que je pense qu'on arrive aujourd'hui à un tournant. Je pense que l'espérance de vie a augmenté, et on sait qu'elle augmentera encore jusqu'à peut-être 115 ans grâce au progrès de l'hygiène et de la médecine. Mais il y a une sorte de mur de la longévité, comme il y a un mur de la lumière ou un mur du son, et pour le franchir, il faut changer de logiciel. C'est-à-dire qu'il faut faire comme Monsieur Radman, comprendre pourquoi on vieillit. Et de ce côté-là, si on oublie les charlatans qui se sont succédés tout au long de l'histoire, je crois qu'aujourd'hui, on approche du but. Je ne dis pas qu'on y est, mais aujourd'hui, un certain nombre de recherches des biologistes, je pense aux recherches sur les télomères, je pense aux recherches de David Sinclair, une fois de plus, et sans doute aux recherches de M. Radman, permettent non seulement de comprendre pourquoi on vieillit, mais nous donnerons peut-être bientôt les moyens d'agir sur ça. Et c'est pour ça que j'estime que peut-être le changement arrivera possiblement plus vite que ce qu'on imagine.
L'immortalité est-elle une quête sans fin? On en parle avec nos invités, réalisateurs de documentaires. C'est Roland Portiche qui est avec nous pour Les enfants de Mathusalem, l'incroyable histoire de l'allongement de la vie qui paraît chez Stock, et le biologiste généticien Miroslav Radman à l'occasion de la parution de son nouvel essai, Le code de l'immortalité, la découverte qui pourrait prolonger nos vies. C'est chez Human Science.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
L'immortalité, c'est à la fois une quête, mais c'est aussi un rêve, une utopie portée aujourd'hui par un mouvement, celui du transhumanisme, qui prône l'usage des sciences et des techniques pour allonger nos vies, pour booster aussi les capacités de l'être humain. En la matière, on peut apprendre que les maladies pourraient disparaître d'ici 2050 ou encore que l'immortalité pourrait être atteinte d'ici 2045. Je vous propose d'écouter les mots du futurologue Ray Kurzweil. Il travaille pour Google, écoutez ce qu'il en dit.
All of his records and love letters to my mother and recordings of music.
Ses enregistrements, partitions, films, photos. Tout cela représente beaucoup d'informations. L'intelligence artificielle peut tout ingurgiter. Elle peut extraire des souvenirs de ma tête ou trouver son ADN dans sa tombe. On pourrait créer une excellente réplique de mon père à 58 ans, l'âge de sa mort. C'est ça l'idée. Je pense que ça aurait du succès. J'en ai discuté. Même les gens qui ne partagent pas ces idées, mais chez qui quelqu'un a laissé un vrai vide. On est l'espèce qui transcende l'ordre naturel, celle qui dépasse l'ordre naturel. On n'est pas resté au sol, ni même sur la Terre. On ne s'est pas restreint à nos limites biologiques. Aucun autre animal ne le fait. L'homme est unique, il transcende, il surmonte ses problèmes. Il est plus qu'une pêche sur un arbre.
Faire passer nos intelligences, Miroslav Radman, d'un corps à l'autre, être la seule espèce capable de transcender l'ordre naturel, c'est un rêve qui est fou. Qu'est-ce que vous en dites ?
Bon, le titre de mon premier livre, c'est « Au-delà de nos limites biologiques ». Bien sûr que ça m'intéresse, intrigue. Kurzweil parle très bien. À mon avis, il va y avoir la compétition, vous allez voir dans les prochaines années, aux décennies, la compétition de deux approches à prolonger la vie et la vie saine. Donc, une marche lente vers l'immortalité. Et une est le transhumanisme à la Kurzweil. Ça veut dire avec laquelle j'ai simplement du mal esthétique à m'identifier parce que le but de ça, c'est de pallier au vieillissement et aux conséquences du vieillissement plutôt par les prothèses de différents types. On est déjà habitué aux prothèses, bien sûr, il y en a tellement. Mais je me vois mal devenir... une châssis en viande et sang, etc., où il y a des prothèses partout plantées sur moi. Je n'aime pas l'idée de perdre mon identité en devenant un bête châssis pour les prothèses très sophistiquées. L'autre, l'approche est celle que moi je prends, c'est carrément le rajeunissement biologique. Ça veut dire laisser les choses telles quelles. L'organisme sait comment être jeune et performant et beau. Si on a, comme il a été démontré que le rajeunissement est possible au niveau cellulaire, au niveau de l'animal, moi je préfère ça de rester moi-même, mais de ne pas vieillir trop vite, car je crois vraiment par rapport à l'évolution. Culturel, que le vieillissement biologique est un vandalisme culturel. Ça nous tue beaucoup plus tôt par rapport à ce que nous pouvons encore faire si on restait jeune à 80 ans ou à 100 ans. Voilà, c'est dans ce sens-là, le vieillissement biologique est un vandalisme culturel et je vais me battre contre le vandalisme.
Et on peut aussi déplacer la question sur le terrain philosophique. Et là, je vous propose d'écouter les mots de Jean-Pierre Dupuis à ce sujet. Sans conscience de la fin, comment supporter la vie ?
Même si l'évolution... à procéder par bricolage, sans plan préétabli justement, lorsque des êtres humains prétendent devenir les ingénieurs de cette histoire, il y a une sorte de démesure qui peut évidemment se retourner contre eux. Il y a deux conditions de possibilité pour que la vie ait un sens. Premièrement, qu'elle ait une fin. Deuxièmement, qu'elle soit tissée de hasard. Donc si on veut éliminer la faim et si on veut éliminer le hasard, bien on élimine tout simplement en même temps le sens de la vie. Et du même coup, le sens de la mort et le sens de cours.
Éliminer la faim, Roland Portiche, à quelle fin ? Éliminer la faim, c'est ce que nous dit Jean-Pierre Dupuis, mais à quelle fin ?
Oui, mais en vérité, je crois que c'est un faux problème. Le problème, c'est pas d'éliminer la faim, et c'est surtout pas l'éternité. Qui pense à l'éternité sérieusement ? Je pense, comme M. Ratman, les transhumanistes pensent à l'éternité. Mais en fait, ils nous refilent une marchandise philosophique vieille comme le monde, qui est celle qui consiste à dire que le corps, c'est périssable et corruptible, et l'esprit, c'est éternel et incorruptible. Et en vérité, leur idée, c'est de diviser le corps et l'esprit. Non, l'idée de l'éternité est pas la bonne idée. La vérité, c'est effectivement, comme M. Radman, on a envie de gagner quelques années de plus.
Et de bien vieillir.
Et oui, et de les gagner dans de bonnes conditions. Moi, j'appelle ça la fin de l'urgence. Je pense que depuis le début de l'humanité, nous vivons d'une certaine manière empoisonnés par ce que j'appelle l'urgence, c'est-à-dire le fait de vivre sa vie comme un décompte permanent. Et je crois que le fait de gagner quelques années en plus, peut-être de vivre jusqu'à 120, 130, 140 ans, je ne dis pas que ça mettra fin à l'urgence, parce que on aura toujours envie de vivre plus longtemps, et puis la mort existe toujours pour nous indiquer ses limites. Mais, vous savez, il y a une très belle phrase dans le livre de Job, juste à la fin, quand l'auteur, le poète, dit « Et Job mourut rassasié de jours ». Il s'agit pas d'être éternel, mais d'être un peu rassasié de jours. Et aujourd'hui, on a encore faim quand on meurt. Et regardez, Monsieur Ratman, il est jovial, il a certainement envie de... On lui donnerait 50 ans de plus, il apprendrait des tas de choses en plus.
Parce qu'il n'est pas encore rassasié de découvertes et de curiosités, c'est ça?
Il n'est pas rassasié. Et donc, moi-même, je me dis, mais j'ai fait de la philosophie, j'ai fait de la télévision, mais pourquoi j'adorerais faire de la musique, j'adorerais apprendre les mathématiques? Non, on a encore faim quand on meurt aujourd'hui, même si on meurt à 90 ans. Et donc, je pense que si on arrive biologiquement à gagner 10, 15, 30, 40 ans de plus, ben peut-être que effectivement ça rendra la vie plus légère.
Merci beaucoup à vous, Roland Portiche. Merci Miroslav Radman. C'est à ça que vous travaillez justement aujourd'hui. Le code de l'immortalité, c'est le titre de votre ouvrage. Et je rappelle celui de Roland Portiche, Les enfants de Mathusalem, l'incroyable histoire de l'allongement de la vie qui remonte très très loin dans nos origines, vient de paraître chez Stock. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Mayane Escovic et Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des idées, à Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture, avec l'aide précieuse, très précieuse, de Mathilde Thon-Fourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Jean Guilhermège. Très bel après-midi sur France Culture.